transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.
À toutes et à tous et bienvenue dans ce 18e numéro de C'est la faute à la manette. Aujourd'hui, il va falloir vous replonger dans votre enfance, vous rappeler ces montagnes de CD gravés qui envahissaient votre chambre et de ce Final Fantasy 7, 8 ou 9 qui se vendait 50 francs, hein, on était en francs à l'époque, 50 francs chez ce marchand véreux alors qu'il vaut aujourd'hui combien ? 5 fois plus minimum.
Ouais, c'est ça.
C'est ça. Donc on va vous parler bien sûr de la PlayStation, il ne faut pas sous-estimer son pouvoir. Ça vous rappellera peut-être quelque chose, on en parlera peut-être un petit peu après. Pour m'accompagner, j'ai avec moi l'homme pour qui PlayStation rime avec Xbox, c'est Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va ?
Bah écoute, ça va, après dire que ça rime, je dirais pas non plus. Hein.
Bah, ça rime pas trop, mais j'ai trouvé que ça. C'est triste.
C'est pour mon résumé, ouais.
D'accord.
Ça me convient bien.
Est-ce que tu as un petit jeu du moment, Guillaume ?
J'en aurais plusieurs, bah, comme tout le monde, Pokémon Go, j'ai envie de dire.
D'accord, ouais, voilà. Ok.
Sinon, je suis en train de me faire les Rare Replay, j'ai relancé Alien Isolation, Trails of the Blue Dragon et un peu de tout, voilà.
Bah, ça fait beaucoup.
Ouais, ça fait déjà pas mal. Hein.
Ça fait beaucoup. Alors, on aurait dû avoir l'homme pour qui PlayStation rime avec carte graphique, Tom. Alors, Tom est censé arriver au milieu de l'émission, je crois qu'il a eu un imprévu avec sa barbe ou quelque chose comme ça. Il me fait « je tente l'impossible et j'arrive ». On verra bien.
T'es sûr.
Donc, également avec nous, on a l'homme pour qui PlayStation rime avec « Oh mon Dieu, j'ai tous les jeux de baston de la machine, t'as vu, c'est trop bien, et puis ça, tu l'as, et puis ça, je l'ai en 12 exemplaires, c'est quoi ?» C'est Ferdi, salut Ferdi, ça va ?
Salut, salut. Oui, oui, les jeux de baston, PlayStation 1, une histoire d'amour.
Alors, à quoi tu joues en ce moment, Ferdi ?
Moi, je joue à Wasteland 2.
D'accord.
Sur PC, RPG, hardcore, façon Fallout 2, Baldur's Gate, etc.
D'accord.
Exceptionnel.
Ok.
Voilà, exceptionnel, ultra dur, ultra bien écrit, voilà.
Eh ben, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Donc la PlayStation, une marque, une console entièrement culte. Donc dans cette émission, on ne vous expliquera pas en détail pourquoi elle est devenue ce qu'elle est à force de bonnes idées finalement et de concepts assez surprenants pour l'époque. On verra peut-être ça dans une prochaine émission. Là, on va se concentrer principalement sur les jeux finalement, ce qui a été un peu le rouleau compresseur de la machine. On vous citera les meilleurs jeux de chaque genre. Donc on a classé tous les jeux en, je crois, 7 genres différents. À peu près. Oui, c'est ça.
Environ.
C'est 7 à 8 genres différents et on reviendra un petit peu sur les principaux titres qui nous ont marqués. On finira par notre titre préféré de la machine, chacun. Et enfin, sur le titre qui est le plus horrible de la machine, tout simplement. Et au milieu de tout ça, bien sûr, il y aura un quiz un petit peu spécial pendant lequel je pourrai jouer, moi, exceptionnellement,
ça,
pour
bien.
Une fois.
Ça, c'est cool.
C'est bien, ça a été fait par une autre personne que nous quatre, donc c'est super. Donc, la PlayStation et ses jeux cultes, c'est parti, Guillaume, je te laisse allumer la PlayStation, c'est parti.
C'est parti.
un des jingles les plus d'allumage de console les plus emblématiques.
T'as toujours le petit bug à un moment dans la musique, ouais. La petite.
Et puis t'avais peur que ça s'allume pas. À ce
C'était le moment pour te dire si ton CD était foutu ou pas. T'attendais le début puisqu'il y avait pas la fin du jingle. Tu faisais, merde.
Alors si vous êtes un joueur accompli, bien sûr, ça vous rappellera des souvenirs. C'est vraiment comme une petite mélodie qui résonne à vos oreilles. Pour les autres aussi d'ailleurs, hein, la console était assez populaire à mon avis pour que tout le monde s'en rappelle un petit peu quand même.
Tu vois souvent des petites vidéos justement sur Facebook comme ça où ils disent à qui ça rappelle des souvenirs quoi. Enfin,
ouais, moi, les années 90, lève la main.
Logo, ouais. lève la main si t'as connu ça.
T'as une enfance parfaite si t'as fait ça.
C'est à peu près ça. Voilà.
Alors la PlayStation elle est sortie en 1996 suite à un projet avorté de lecteur CD de la Super Nintendo. Donc, est-ce que quelqu'un peut revenir un petit peu là-dessus? Quelqu'un connaît-il
Savoir que Sony et Nintendo s'entendaient très bien. Quoi.
C'était des très bons amis à l'époque.
Des très bons amis.
Mais ils étaient tous les deux nippons, déjà.
Voilà.
C'est sur le marché de la console, non mais...
c'est déjà...
Oui, c'est ça, quoi. Et ils s'entendaient très, très bien. Puis il y avait vraiment le projet donc, de créer un premier lecteur de CD pour la Super Nintendo. Quoi.
Tout à fait. Et Nintendo a décidé au dernier moment de... Il y a quelque chose qui lui a pas plu, je crois. C'était, je crois, un brevet ou quelque chose comme ça.
Une affaire de sous, quoi.
Une affaire de sous. Et il a décidé au dernier moment de faire son partenariat avec Philips pour créer cette magnifique machine que tout le monde se rappelle, qui est la CDI.
Voilà.
Sur lequel on a eu des jeux Mario et trois jeux Zelda. Squalala, absolument culte, absolument génial. Donc, la PlayStation, comme je le disais, a été lancée au Japon bien avant chez nous, le 3 décembre 1994, le 9 septembre 1995 aux États-Unis, et du coup, chez nous, en 96. Il profita d'un lancement réussi avec des titres de tous les genres, mais pas forcément de grande qualité. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Battle Arena de Toshiden.
Qui n'était pas si mal que ça, qui a très mal vieilli. Mais pour un jeu de lancement, c'était pas mal.
Twisted Metal. Ouais,
je connais surtout le nom.
Course,
assez particulier. Warhawk,
j'ai oublié
Ridge Racer,
qui était très très cool,
qui est très très cool, et Wipeout.
Wipeout, qui est finalement le jeu de Sony qui va le suivre jusqu'à toutes ses consoles et toutes les versions de consoles PlayStation existantes, qui va être un des jeux de lancement.
Ouais.
Voilà. Ah oui, non, c'est très bien, mais c'est toujours un jeu de lancement de toutes les PlayStation.
C'était l'époque du turfu et tout, du coup, je me rappelle. Quand on me disait tu vas jouer à Wipeout, c'est genre tu vas voir, ça donne envie de gerber tellement ça va vite et tout.
C'est ça.
Genre, c'est une révolution.
Le F-Zero de Sony.
Non, mais c'est dingue.
Alors, est-ce que vous voyez un peu comment est faite la manette de la PlayStation?
Ouais.
Alors, le designer de la manette explique le choix des symboles plutôt que des lettres pour des boutons pour une raison particulière. Selon lui, le triangle se réfère au point de vue. Il représente la tête de tout un chacun ou une direction. Donc, il l'a voulu de couleur verte, parce que c'est censé représenter une tête triangulaire.
Donc, les têtes sont vertes.
Un petit peu comme les boobs de Lara Croft à l'époque, triangulaire et
vert. Mais ils sont pas verts non plus.
Le carré symbolise une feuille de papier, donc un bloc-notes plutôt. Il représente les menus ou les documents.
C'est vrai.
Voilà. Mm-hmm. Donc en rose, peu importe. Le rond et la croix représentent le oui et le non. Ce qui fait que dans certains jeux. Nous, c'est plutôt le contraire finalement en Europe. Le rouge, c'est plutôt interdiction. Le bleu, c'est plutôt la validation. Mm. Ce qui fait que les touches ont parfois été changées dans beaucoup de jeux chez nous en Europe.
Ouais.
Mais que des jeux comme Metal Gear Solid, en revanche, conservent le sens japonais. Ce qui fait que plein de gens se sont gourés au début de Metal Gear en tentant de valider avec ce bouton X qui les faisait repartir en arrière. Voilà, c'était un petit peu le...
Petite anecdote, mais...
Une petite anecdote.
Le pourquoi.
Voilà, le pourquoi du comment. Donc, au lancement, la console est proposée à $299 aux États-Unis et chez nous, du coup, 2099 francs. Finalement, ce qui a toujours un taux de change magnifique, c'est ce qui faisait 397 €.
On a toujours Xbox One.
On a toujours un taux de change assez magnifique chez nous.
Ouais, bah.
C'est dingue.
Ouais, c'est ça.
Bah, l'Europe, quoi.
C'est ça, l'Europe.
La dernière roue du carrosse, éternellement.
C'est ça, jusqu'au bout.
Alors, Verdi, je te laisse continuer.
Alors, le record de vente revient au jeu de course Gran Turismo avec 10 millions de jeux de vendus. Tekken est le premier jeu de la PlayStation à dépasser la barre du million d'unités. En ce cas intéressant, vu que c'est un des premiers jeux de la console, donc ça veut dire ça explique son succès rapide.
Je comprends.
Le dernier jeu produit par la console, c'est comme pour toutes les PlayStation, un FIFA.
Ouais.
Voilà. FIFA que Guillaume a récupéré.
Que Guillaume a acheté.
J'avais eu, je me rappelle.
Donc tu as le dernier jeu de la console officiellement. Est-ce que tu es fier de toi?
Bah je l'avais, ouais. Bah écoute, bah c'est rigolo parce qu'il est sorti en 96 et c'était 2006, donc 10 ans après.
10 ans après. Hein.
Voilà. Donc, moi j'avais 10 ans perso. Voilà. Et non ouais, bah c'était un FIFA quoi. C'est-à-dire qu'ils se faisaient même plus chier à faire un nouveau jeu. C'est-à-dire qu'ils prenaient,
ils changeaient les noms,
ouais, les maillots, etc. Bah comme ils ont fait pour la PlayStation 2. Mais voilà, ça restait quand même symboliquement le dernier jeu de la console.
Alors très intéressant, au 30 juin 2008. 4944 titres ont été commercialisés au Japon, et c'est là que ça devient intéressant.
Ce qui est énorme.
Ce qui est énorme, en Amérique, il y en a eu 1335 et 1639 en Europe. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 3000 jeux qui n'ont jamais dépassé les frontières du Japon.
Ce qui veut dire que malgré l'énorme, finalement, code de titres qu'on a chez nous, on n'en avait même pas le tiers.
C'est ça.
Et on en a plus que les Américains.
Et on en a plus que les Américains. Parce que les Américains aimaient censurer, hein, je crois.
Oui, puis c'est surtout qu'il faut savoir qu'en France, on a eu des jeux inédits. On a eu des jeux Fort Boyard, des jeux tirés de licence, les Visiteurs, etc.
Les Visiteurs,
Taxi,
effectivement.
Des jeux qui n'ont jamais dépassé les frontières.
Des jeux que les Américains nous envient.
Ah bah tu vois,
forcément.
Ah bah, c'est qu'ils nous font des remakes de films là.
C'est ça.
Forcément donc.
Et alors pour ceux qui veulent, depuis 2006, des jeux PlayStation sont édités en téléchargement sur le PlayStation Store, sur la PlayStation 3, PSP, PS Vita, PS4. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous en avez.
Pas PS4.
Pas PS4 encore.
Pas PS4. Non.
Non, ils l'ont pas fait.
Non, pas encore justement. Ça ne fonctionne pas.
Parce que c'est dommage.
C'est vraiment dommage parce que ça aurait été plutôt sympa à jouer. Ils préfèrent ressortir des jeux comme FF7 par exemple à 17€. En se disant voilà, c'est encore plus cher, mais on a mis deux cheat codes en plus.
Ce qui est bien, c'est que c'est l'avantage, c'est que tu l'achètes une fois sur le PlayStation Store, tu l'as pour toutes tes machines. C'est-à-dire que tu l'as pour la PSP, la Vita ou la 3, et pour une seule fois quoi. Et ça, c'est très très bien, je trouve. C'est lié à ton compte quoi.
Ce qu'on appelle le terme de cross-buy, c'est-à-dire que si vous l'achetez sur une des plateformes, par exemple PSP, PS Vita, PS3, vous pourrez jouer dans les mêmes conditions sur vos autres machines sans rien payer en supplément.
Ça c'est très très bien.
C'est quelque chose en train de faire Microsoft d'ailleurs.
C'est ce qu'est en train de faire Microsoft.
Tout le monde aurait dû faire
avec son PC, et c'est ce que ne fait toujours pas Nintendo et qui aurait dû faire depuis très très longtemps.
Oui, bah surtout Nintendo. Ouais.
Surtout Nintendo qui te fait repayer des jeux Super Nintendo 7€ à chaque fois parce que rien à foutre, on est Nintendo. Voilà, c'est assez dramatique, je dois l'avouer. Alors, je vais faire un petit tour de table avec ma traditionnelle question. C'est comment avez-vous connu la console? On va commencer par toi, Ferdi. Je sais que Game a une histoire intéressante.
Moi, alors, je l'ai connu par un cousin qui l'avait et qui était plus âgé que moi, qui avait genre 18 ans, j'en avais 10.
Ouais.
Et il avait Tekken 2. Mmh. J'ai joué beaucoup, beaucoup à Tekken 2 avec lui. Et puis un jour, en brocante, à l'époque, la PS2 venait de sortir. Mmh. J'ai trouvé une PlayStation 1 d'occasion. J'avais payé 30€ à l'époque avec Final Fantasy VII.
Wow.
Et Final Fantasy VII a été mon premier jeu de la PlayStation et c'était la claque que ça a été, voilà.
Bah,
ça va. Ouais, ça va. C'était. Puis après la PlayStation, ça a été une console que j'ai beaucoup beaucoup gardée. Enfin, je l'ai beaucoup par rapport aux autres consoles que j'ai. Je l'ai très 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 étirée quoi. Comme la PS2, c'est des consoles que j'ai étirées dans le temps plus que de raisons par rapport à leur sortie neuve.
Ok, alors moi je vais parler de mon expérience avant la deuxième parce que je trouvais ton histoire vraiment intéressante. Moi du coup c'était classique, hein, c'était un Noël quelques mois avant la N64, je crois que c'était en 95 que je l'ai eu. Arrivé voilà, dans le magasin, voilà, j'étais assez grand donc on allait directement chercher les cadeaux dans le magasin. On avait pris la PlayStation et j'étais en train de dire qu'effectivement il fallait un jeu pour aller avec. Effectivement, tout ce qui restait dans le rayon c'était un Crash Bandicoot 2. Attention, hein, il restait qu'un Crash Bandicoot 2, tout avait été dévalisé, c'était quasiment le premier Noël de la PlayStation, donc ça avait très bien fonctionné. Et restait juste ce jeu-là dont j'avais entendu parler. Alors je me suis dit, bon bah pourquoi pas, c'est le seul jeu, on est parti. À l'époque, je n'avais pas de carte mémoire, pour vous dire qu'à quel point j'ai recommencé ce Crash Bandicoot 2 des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. Okay. J'y reviendrai un petit peu parce que c'est un jeu qui m'a marqué à bien des égards. Donc voilà, pour moi, c'était ma découverte de la PlayStation que j'ai pucé un petit peu plus tard, et que j'ai revendu pour une N64 à l'époque, parce que la N64 c'était cool, c'était bien, il y avait Mario 64, voilà. À toi Guillaume.
Alors j'ai, par contre je saurais pas te dire, ça devait être peut-être 98 ou 99 ou 2000, et en fait je me rappelle j'avais pas de console de jeu, à part une chez mon père, j'avais la Super NES avec Monsieur Note, bon bref, on va pas revenir sur là-dessus.
On va y revenir encore
toutes
une fois.
Les émissions, il arrivera à le placer.
J'ai réussi à le placer aujourd'hui, voilà, le compteur est fait. Et non, et du coup je vais chez mon oncle qui avait cette PlayStation 1 pucée avec une quarantaine de jeux, et il lance un jeu qui s'appelait Soul Edge, et pas Soul Blade, parce que c'était la version import japonaise.
Oh. Ouais.
Et il me donne la manette, et il donne l'autre manette à ma grand-mère, et on a fait un combat sur Soul Edge avec ma grand-mère. Voilà.
Mon premier souvenir de la PlayStation, c'est moi contre ma grand-mère avec un combat à la paix. C'est tellement épique.
Sauf qu'elle a pas eu le temps de prendre la manette, qu'en fait je l'ai poussée jusque. Voilà, donc faut pas pousser mémé dans l'eau. Voilà.
Hors du ring.
Hors du ring. Et voilà, ça a été mon premier souvenir. J'y ai jamais rejoué, à part justement un Noël où je me suis rêvé. Non, on me l'a offert le soir même, la PlayStation 1 dans un sac avec tous les jeux de mon oncle, plus une télé toute neuve.
Et ben,
donc c'était le gros lot, quoi. Enfin,
c'était le meilleur Noël de ta vie.
Je pense, ouais. Clairement, des étoiles dans les yeux, mais voilà.
J'imagine bien. Alors j'aurais bien interrogé Tom, mais je ne peux pas parler aux chaises, malheureusement.
Dommage.
On va pas attendre qu'il arrive, mais on va enchaîner directement. On va faire une première pause musicale, histoire de voir s'il est attiré par la musique de
FF7. Avec la musique.
À tout de suite.
Et on se retrouve juste après sur Radio Campus Tour. À tout de suite. Donc on vient de s'écouter une musique de FF7, la musique de combat, on est toujours sur Radio Campus Tour, et on est toujours dans les années 90 à parler de la PlayStation, c'est ça ?
Dans C'est la faute à la manette, bien
dans
sûr,
c'est la faute à la manette, bien sûr.
Faut le rappeler. Ouais. Alors avant de passer vraiment au débat, de parler des jeux, on va juste essayer de définir ce qui a fait le succès de cette machine. Qu'est-ce qui, selon vous, a été le principal argument de cette machine ? Pourquoi elle s'est vendue à 120 millions d'exemplaires ? Pourquoi ? Ferdi ?
Alors moi, c'est son format CD. Alors, son format CD parce que c'était la nouveauté. Mm-hmm. Il y avait la Saturn avant et puis elle, qui étaient les consoles nouvelle génération d'un nouveau format. On était aux cartouches avant, faut pas oublier.
On rappelle que Sony a tué la Saturn dans l'œuf lors d'un E3.
Ah oui.
La Saturn avait annoncé son prix, très, très heureux de dire $399. Et pendant la conférence de Sony, le PDG est arrivé sur scène, il a simplement dit ces mots, $299, et il est parti.
L'histoire se répète.
La Saturne était morte à partir de ce moment-là.
L'histoire se répète, c'est la même chose avec la Xbox récemment. Ouais,
exactement,
quoi.
Exactement. C'est vraiment leur stratégie.
Tout ça à cause de la Kinect.
Je te laisse continuer.
Donc le format CD, pourquoi ? Parce que ce qui est assez drôle dans cette histoire, c'est que c'était la console, la première, avec le piratage absolu.
Ouais.
C'est-à-dire que c'est la console qui a été une des plus piratées avec le système de puces qu'on a connu, le système de stylos qu'on mettait dans l'écran. Enfin, plein de petites astuces. Et pourquoi c'était drôle? Parce que Sony, c'était eux les premiers fabricants de graveurs et de CD vierges.
Ouais.
Et là, la boucle était... Alors beaucoup de gens, sur le coup, ils se défendaient de dire ça, ils étaient contre le piratage, mais au fond d'eux, ils s'en foutaient parce que finalement, toutes les marchandises, c'était eux qui les vendaient. Quoi.
Finalement, ils se pirataient eux-mêmes et ils s'auto-alimentaient.
Parce qu'en fait, ils vendaient moins de jeux, mais ils vendaient plus de consoles. Ouais. Donc ils vendaient plus d'hardware, et vu que c'est l'hardware qui rapporte le plus...
Mm. Oui, pour, voilà. Pour Sony, en tout cas.
Oui, pour Sony, donc c'était très très rentable. Quoi.
D'accord. Ouais. Guillaume.
Eh ben, je vais faire juste un petit aparté. Il y a la gueule de la console.
Oui.
Même
c'est
avec
vrai.
Sa version slim. Enfin, c'était.
Ouais. Puis même la première version qui était comme jolie, voilà. qui était plus sobre, quoi, qui
faisait très adulte finalement l'époque. Ouais. Hein,
avec les cartes mémoire, je pense, que c'est la première console.
C'est la première console qui en a eu besoin, ouais. Vraiment. Ouais.
Et aussi, bah, du coup, la partie multimédia parce que c'est la première console quand même où tu pouvais écouter de la musique.
Voilà, oui.
Ouais.
Tu pouvais mettre des CD des années 90 et écouter. Ton bon album de Diams, etc. chez toi.
Et certains jeux, en fait, tu pouvais les lancer à partir. Enfin, tu lançais la console à vide, tu lançais le lecteur CD,
ouais,
et tu pouvais écouter la BO de ton jeu à partir du CD de ton jeu. Il y avait certains jeux qui avaient ça.
C'est et c'est vraiment un truc de Sony, ça, c'est ce que je remarque. Il a permis de lire des CD audio sur sa PS1. Il a mis un lecteur DVD sur sa PS2, il a mis un lecteur Blu-ray sur sa PS3.
Toujours en avance technologiquement.
Il a fait une machine vide de sens avec la PS4.
Et toujours en amenant ces technologies de lecteur CD, DVD, ouais. Blu-ray.
C'est dommage qu'il n'ait pas pris la
moins
DVD,
cher que les autres.
Les HD DVD, qui se souvient des HD DVD?
Microsoft.
Mais ouais.
Quant à moi, je dirais que c'est son ouverture à un nouveau public. Jusque-là, le jeu vidéo, on considérait que c'était quelque chose de réservé à des enfants, ce qui était pour un public très jeune. La PlayStation s'est tout de suite positionnée comme étant un média d'adultes pour finalement viser les adolescents et les jeunes adultes. Finalement, les gens qui avaient grandi avec la Super Nintendo, qui avaient grandi avec la Mega Drive, Sony s'est dit, je vais les récupérer, je vais faire des spots un peu plus adultes, faire des jeux un peu plus adultes aussi. Les spots, le comité anti-PlayStation, c'est eux qui l'ont lancé.
Les pubs de David Lynch, qui étaient magnifiques.
Les pubs de David Lynch.
Comment s'appelait l'extraterrestre? Celle qui nous présentait les jeux.
Je ne m'en souviens pas.
C'est l'espèce de fille virtuelle avec des très gros yeux qui nous expliquait que la PlayStation était un nouveau monde.
Oh, c'est ça. Désolé. C'est
horrible, j'en ai fait des cauchemars.
En fait, les pubs PlayStation, elles étaient totalement what the fuck. Ouais. Quoi. C'était... Et ça a marché finalement, parce que c'était
des gars quand même étaient pas mal quand ils gueulaient dessus en disant Sega.
Les pubs de la première Xbox, je vous en montrerai, qui sont particulièrement en retard.
C'était, la Sony, ils avaient amené ils avaient, le jeu, comme tu dis, le contenu plus adulte. Quoi.
D'accord. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter là-dessus ou est-ce qu'on passe directement au jeu?
Si, on va en parler dans les jeux, c'est le catalogue.
Le catalogue.
Le catalogue VF, européen,
voilà,
qui était important.
On va parler
c'est pour ça que ça
marche. Du catalogue européen. Donc, on va tout de suite commencer par le genre action-aventure. Action-aventure, finalement, ça regroupe finalement pas mal de choses.
Voilà.
C'est un petit peu un petit fourre-tout dans lequel on a mis différents titres. On pourrait commencer par quoi est-ce que...
On peut commencer par le genre qui a été amené par la PlayStation, je pense. C'est,
on va dire les deux. Moi, je vois deux genres, c'est-à-dire le Survival Horror.
Voilà, le Survival Horror qui a été créé finalement à partir de cette génération. Quoi.
Voilà, avec des jeux comme Resident Evil, Dino Crisis,
Silent Hill.
Ouais. Quel est le Survival Horror finalement qui vous a, vous, le plus marqué
Jurassic
à l'époque?
Le survival
sur PS1.
C'est très dur entre Resident Evil 2 et Silent Hill, quoi.
D'accord.
Pour moi, c'est le pinacle de deux séries qui sont le premier Silent Hill et le Resident Evil 2. C'était deux claques.
Alors moi, ce serait le premier Resident Evil perso parce que c'est un titre que j'ai refait un milliard de fois.
Celle avec le film.
En fait, j'ai surtout fait la version GameCube. Je
d'accord.
L'avoue, mais
moi,
c'est ça.
C'est le problème, c'est que j'avais les trois premiers Resident Evil sur ma PlayStation 1. J'étais jeune et ce qui me rebutait beaucoup, c'était les déplacements.
Où
il fallait tourner ton personnage pour après avancer.
La maniabilité.
Et du coup, moi, ça m'a fait rebuter. Donc, j'ai très peu joué à ces jeux-là quand je les avais. Donc, moi, je m'abstiendrai de dire quel est mon jeu préféré de ce style.
Mais c'est la première fois qu'on essaie de faire ressentir autre chose
que du jeu, quoi.
Du plaisir dans un jeu.
Côté cinématographique.
C'est
quoi.
Ça. Voilà, exactement.
On voulait te faire peur et c'était réussi d'ailleurs. Pour l'époque, Silent Hill était terrifiant.
Les Doberman de Resident Evil.
C'était incroyable.
Ce putain de chien qui te saute dans la.
Et même Silent Hill, le génie d'utiliser les capacités de la console.
Avec le brouillard,
voilà.
Qui était génialissime. Non, c'est des grands jeux. C'est un genre qui a été inventé grâce.
Ou qui a été popularisé.
Parce que.
On va se faire engueuler par.
Non, parce que je vais le dire. Le premier Survival Horror, c'est Alone in the Dark sur PC, fait par un Français. Voilà. Remettons le truc. Qui a été beaucoup pillé par Resident Evil 1, aussi bien le choix des caméras, la maniabilité du personnage,
mais Resident Evil a inventé finalement tout le reste. Enfin, il a popularisé un genre qui n'était qu'un truc de niche finalement.
Et les zombies n'étaient pas à l'époque une mode comme maintenant.
Exactement.
Bien oublié, ça, c'était un fan, c'était des fans de Romero, de films d'horreur de zombies qui ont fait ça, et c'était avant les, voilà, maintenant c'est faire du zombie, c'est
l'autre
c'est,
point commun
c'est facile,
avec le Resident Evil in the Dark, c'est que tous les deux leur dernier épisode est nul à chier, par contre.
Oui, on peut dire ça. Halo in the Dark est tombé au fin fond du gouffre de la médiocrité avec le dernier épisode.
Et Resident Evil 6, on sait l'histoire de la girafe. mais sinon, toujours dans les jeux d'action-aventure, il y avait aussi Tomb Raider, qui est quand même un des personnages.
Tomb Raider,
l'héroïne,
qui est une série, qui est une série vraiment, enfin, assez incroyable. Enfin, moi, c'est la première fois qu'on pouvait bouger
dans un environnement 3D
comme ça, et avec une nana. C'est très con à dire. Mais pour l'époque, jouer une femme,
c'était pas commun.
Ça ne se faisait pas.
Ça se faisait pas. Alors même s'il y en a qui disaient ouais, c'est une fille avec des gros nichons, tout ça. C'était quand même une femme forte. Enfin,
il faut dire que Lara Croft, c'était pas juste une bimbo qui tuait des tigres.
Archéologue.
Elle a fait des études. Elle a un manoir. Elle a du fric. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un d'accompli. Elle est badass en plus.
Et il y a un code pour l'avoir nue.
Et il y a un code pour l'avoir nue qui ne marche pas.
Mais oui, Tomb Raider, c'était.
Regarde, il y a eu même des adaptations de films avec Tomb Raider. Je pense que c'est quand même dans les premiers. Hein.
Elle est rentrée dans la pop culture.
Dans des films hollywoodiens, quand même. C'est pas rien.
Et pareil, comme tu disais, les jeux plus adultes, finalement, Tomb Raider,
il en faisait partie.
On reste dans un. C'est Indiana Jones, ok, on va se balader, mais l'univers est pas enfantin, quoi.
Ouais. Un autre genre, je voulais juste revenir sur le deuxième genre.
Oui.
Qui a été plus ou moins inventé par la PlayStation, c'est le genre de l'infiltration
3D.
L'infiltration 3D.
Ouais.
Voilà, ça paraissait fou pour l'époque. C'était une époque où on tuait vraiment à tout va.
On était en plein Doom.
On était en post-Doom finalement. Et voilà, c'était que de l'action constante tout le temps. Et là, on te propose d'un coup.
D'éviter
les gens, de te cacher.
Ah, tu vas le citer, vas-y, cite le nom. Ils attendent que certains
d'entre eux. Metal Gear Solid,
qui a traversé toutes les frontières.
Qui a un doublage absolument ignoble mais culte.
C'est ça. Parce que les doubleurs, ceux qui font les voix sont excellents. C'est des voix qu'on a connues quand on était jeunes dans nos dessins animés, dans nos films. C'est juste qu'ils ont dit de la merde, la majorité.
Le doubleur de Metal Gear, c'était toujours le même mec qui jouait Rambo, il jouait les filles, il jouait les garçons.
C'est ça.
Et il faisait pas de différence.
Mais on parlait tout à l'heure de. Guillaume parlait avec les Resident Evil de cinématographie.
Ouais.
Metal Gear, ça a été encore un exemple de le cinéma en jeu vidéo. Quoi.
L'écriture, en fait.
Super écriture, une mise en scène avec des angles de caméra très précis et l'infiltration. Ça veut dire que Metal Gear, on peut traverser tout jeu sans se faire repérer. Il y a vraiment une mise en place de ça. C'est quelque chose qui n'existait pas dans les jeux, quoi. Vraiment.
Et si tu veux aussi, il y a des bonnes séquences d'infiltration. Il y a les premiers jeux Harry Potter sur PlayStation 1.
Ouais.
Et les jeux de Tenchu.
Je rigole pas.
Et la série des Tenchu. Mais c'est vraiment un genre qui a été créé grâce à ça, quoi. Grâce à la 3D, une bonne 3D, quoi.
Ok.
Et Metal Gear Solid qui est devenu une référence.
Une référence en la matière.
Voilà, on en est au cinquième épisode maintenant.
Le pain fantôme.
Et c'est Kojima qui est parti. Enfin, ça a créé une légende, Kojima. Voilà, du jeu vidéo, quoi. Donc oui, en action-aventure, c'est l'infiltration, le survival horror, comme tu dis, qui ont été créés, enfin, qui ont eu leur lettre de noblesse et leur création, même s'il y a eu des prémices d'infiltration sur certains jeux 2D, mais vraiment, le terme n'existait vraiment pas à l'époque, quoi. Il n'y avait pas de jeu d'infiltration sur Super Nintendo, par exemple.
Et également un genre qui n'a pas explosé sur PlayStation, mais qui a atteint quelques lettres de noblesse, quand même, c'est le RPG. Le RPG, le role-playing game, parmi les jeux plus cotés de la machine, parce que ce sont des jeux complets, des jeux rares.
C'est ça. Et pour une bonne raison, comme je disais tout à l'heure, l'AVF.
L'AVF.
C'était la console qui les a fait. Alors sur Super Nintendo, on en a eu quelques-uns. On
très
avait
peu.
Secret of Evermore, si je crois.
Secret of Mana.
Secret of Mana, Secret of Evermore et. Je crois que c'est.
Je crois qu'il n'y en avait pas des masses.
On en a eu quelques-uns.
Et un jour débarque un jeu qui s'appelle Final Fantasy VII.
Septième épisode d'une saga.
C'est le premier jeu qui sort de la saga en Europe. Il est traduit.
Intégralement.
Autant que faire se peut d'ailleurs, avec la traduction un peu pourrave, mais il était traduit, attention. On parle d'un jeu qui avait des cinématiques 3D, etc., qui avait 4 CD, ça paraissait
4 CD,
fou.
C'était une durée de vie exceptionnelle.
C'était 90 heures de jeu comme ça, là, qui s'offrait.
Minimum.
Pour le prix d'un jeu normal. Voilà, c'était pas facturé plus cher parce que c'était.
Et tout était dedans, quoi. Tout était dedans, un jeu grand qui. Et surtout, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le jeu qui disait il y a une carte mémoire. C'était vraiment le jeu obligatoire avec la carte mémoire. Il y avait déjà la pub de la carte mémoire sur le jeu, quoi.
Ouais, c'est vrai, je m'en souviens.
C'était limite une pub avec le truc. Il disait, bah, t'es obligé d'acheter un truc parce que sinon tu vas nous engueuler, quoi.
Ouais.
Ah bah ça. Ouais.
Mais voilà, FF7, c'est
suite, hein, finalement.
Le 8 et le 9. Voilà. Voilà. Et après, il y a eu des rééditions du 6, du 4 et du 5.
Du 4 et du 5, ouais, que j'ai. Voilà. Que j'ai
mais c'est vraiment la console qui. Là, c'était en VF. Ça veut dire qu'on. Petit français qui ne savait pas parler anglais, ou encore moins le japonais, enfin pouvait jouer à un jeu.
Ouais.
Parce que voilà, c'est dur les RPG quand tu quand t'es enfant ou ado. De,
ouais.
Voilà.
Et puis c'était un genre qui était très peu connu chez nous. C'était difficile à appréhender pour les
RPG.
Il y avait que les fanboys qui connaissaient les RPG de la Super Nintendo. Et voilà. C'est le jeu qui a démocratisé ça, quoi.
C'est ça. Est-ce qu'il y a un RPG qui vous a marqué, vous, particulièrement?
Bah, moi, Final Fantasy VII, je vais pas être. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'était un des premiers jeux de la console, puis c'est un jeu qui m'a beaucoup bouleversé pour beaucoup de choses. C'est le jeu. J'en ai déjà parlé, mais c'est un jeu qui m'a beaucoup marqué pour sa mise en scène. Avec l'utilisation des musiques, la BO de Final Fantasy VII est exceptionnelle. Et puis ces moments de gloire, le combat final contre le Sephiroth, etc. Voilà.
C'est un jeu qui m'a ému pour la première fois de ma vie.
C'est Aeris, tout, quoi. Tout est bien fait, quoi.
Guillaume, est-ce que t'avais un RPG?
C'était FF Tactics que j'aimais bien.
Ouais, donc un petit tactique.
Pareil, le premier Tactics qu'on a eu, un des premiers jeux de Tactics, stratégie tactique qu'on a eu.
FF Tactics, c'est quand même un peu l'ancêtre d'un jeu genre Dofus, quoi. Enfin,
oui, c'est ça.
Un principe de déplacement, etc.
C'est ça, c'était un genre qui a existé sur Super Nintendo, mais qu'on n'a pas eu aussi en Europe, quoi.
Exactement. On va passer au genre de la plateforme.
Alors, attends, pour les RPG, quand même, je vais citer Suikoden 2.
Oui.
Parce que sinon, on va se faire
On va se faire engueuler par une certaine personne.
C'est par beaucoup de gens. Alors, oui, c'est un excellent RPG, mais nous avons moins grandi avec. Voilà, c'est pour clarifier la situation.
Nous ne l'avons pas eu.
Voilà, on clarifie la situation. Mais c'est un excellent jeu. Le peu que j'en ai fait, voilà, moi, j'ai très vite compris que c'était un excellent jeu. Mais malheureusement, je n'ai pas assez d'argent.
Moi aussi.
Je n'ai pas assez de PEL et je ne vends pas assez de drogue pour pouvoir me le procurer.
Donc, on passe au genre de la plateforme. Guillaume, parle-nous un peu des jeux Disney. Je sais que c'est ton, c'est ton domaine.
Ça peut paraître très idiot comme ça, mais Disney a fait de très bons jeux de plateforme sur cette console qui est la PlayStation 1. Alors, si je devais en énumérer quelques-uns, déjà, il y avait Winnie l'ourson, la chasse au miel de Tigrou. Oui, ça peut paraître...
Je pense que c'est faut le garder. Hein. Heureusement que l'émission est enregistrée.
Et bien, c'est que je soutiens.
C'est un bon jeu. C'est vraiment un très bon jeu. Un jeu en 2,5D. Enfin, c'est-à-dire que de la 2D, mais en graphisme 3D.
D'accord.
Où vous jouez Tigrou qui doit récupérer du miel pour Winnie l'ourson. Oui, je ne pensais pas dire ça un jour à la radio. Mais qui était très bon. Je me rappelle, j'avais la démo de Tarzan aussi qui était très bon.
Ah, il était bien.
Pour beaucoup d'autres aussi, c'est Hercule.
Hercule qui est un très bon jeu en 2D.
En 2D,
et avec de la profondeur.
Fondoc de champ.
Fourni dans cette magnifique démo qui était Demo One.
C'est ça, la
pour
Demo
ceux qui
One.
Qui s'en rappellent, qui était fournie avec la PlayStation et qui donnait un aperçu de.
Bah, moi j'avais Tarzan.
C'était génial.
Quoi d'autre? Les 102 Dalmatiens à la rescousse aussi. Oui. Voilà.
Et c'était l'époque encore que Disney, après le succès de la Super Nintendo, continuait à faire des bons jeux.
Ah oui, sachez-le, à l'époque, les jeux à licence n'étaient pas mauvais. Ils étaient
des jeux à licence Disney. Des jeux à licence film étaient déjà pourris.
Oui, étaient plutôt bons.
Tu reconnais la plupart du temps les bons jeux Disney, en fait, c'est les jeux où dans chaque niveau, il faut tu récupères le nom du jeu, tu sais.
Oui,
c'est à peu près ça en fait.
Ouais.
Mais non, pour tout ça pour dire que les Disney sont très bons jeux. Voilà. Ouais. Je vous conseille aussi Atlantide, l'Empire perdu, qui est plutôt difficile.
Qui est le Disney par excellence oublié.
C'est vrai.
Parce que c'est le dernier film Disney en 2D que dans l'industrie qu'ils ont oublié.
Ce qui est bien, c'est que vous jouez plein de personnages, vous jouez les environnements du film. Et si les gens qui écoutent l'émission ont joué au jeu, big up à ceux qui ont réussi à faire l'épreuve du feuille de glace, qui était très chiante.
Et c'est aussi des jeux qui marchaient, parce qu'on a eu, comme tu disais tout à l'heure, les cinématiques, et là on avait des extraits de dessins animés, quoi.
Ouais, ça c'était beau.
Des extraits de dessins animés avec les voix.
Et il y avait les doublages officiels.
Voilà,
et
les doublages. Et les voix. Oui, on a oublié d'en parler. On avait donc la porte CD, c'était les musiques symphoniques et des voix préenregistrées, quoi. Qui étaient plus des digits à la Mortal Kombat où on comprenait, on croyait comprendre en fait qu'il disait des trucs et non, en fait, il faisait semblant, quoi.
Là, t'avais la voix du mec que t'as entendu dans le film, à part pour Harry Potter où t'avais des voix affreuses, mais bon.
On avait aussi les Crash Bandicoot, toute la série Crash Bandicoot. Alors, je pense pas qu'on va revenir dessus, on en avait parlé dans l'émission Naughty Dog en détail.
Donc, mais c'était.
Ce sont des jeux incroyables, moi ils font partie de mes préférés, enfin on va y revenir aussi, mais Crash Bandicoot, c'est vraiment un jeu qui a marqué des gens et que des gens veulent encore voir revenir en 2016.
On peut dire la mascotte de la PlayStation 1.
Mais il va revenir dans Skylander.
Ouais, bien sûr, t'as raison. Et puis.
C'est la mascotte de la PS1, quoi qu'on en dise.
Bah, il y avait Spyro aussi.
Il y avait Spyro aussi, oui.
C'est sympa.
Ouais, petit dragon violet. Mais c'était plus. Enfin, Crash a été vraiment c'est lié à tout jamais à ça.
Spyro s'est quand même fait des
à la PS1.
Maintenant qu'il ne fait partie juste d'un personnage de Skylander aussi.
C'est ça.
Est-ce que vous avez un autre jeu de plateforme qui vous a
Rayman marqué 1.
Rayman 1.
Qui était
bien.
Un des premiers jeux de la console, ouais, qui était une claque.
Un de mes préférés.
Qui était magnifique.
Qui est toujours magnifique. Une 2D ouais, sublime, une poésie.
J'ai revu là sur mon téléphone, c'est impressionnant.
Il est fluide encore.
Il est fluide. Il a une énorme. Il a une difficulté constante qui est bien parce que c'est, ça va. Comme tous les bons jeux de plateforme, c'est exponentiel.
Il est quand même très dur.
Il est quand même très dur, mais il est très très bien.
Genre du début, là, bah, comme d'habitude, la forêt, après le monde de la musique, etc. Enfin.
Ouais.
C'est ce que vous pouvez retrouver dans les derniers Rayman encore.
C'est ça, les derniers Rayman en 2D, on revient à ce Rayman-là. Et c'est, voilà, c'est...
Ce qui est la preuve qu'on peut faire un jeu magnifique en 2D,
c'est ça.
Sans sacrifier le gameplay comme un Tintin ou comme un Spirou. Ou comme... Voilà, enfin, je prends l'exemple, c'est bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu ça. C'est un jeu magnifique tout en étant avec un gameplay au poil. Hein, vraiment.
Ouais, sinon, totalement.
Sinon, il y a l'Odyssée d'Hebe.
L'Odyssée d'Hebe, ouais.
Et puis... Hein? Attends, c'est quoi le deuxième? C'est
l'Exode d'Abe.
L'Exode d'Abe, pardon.
On n'y reviendra jamais assez. C'est une série qui méritait tellement plus.
Qui a eu deux autres épisodes après sur les Xbox.
Qui était très bien.
Qui
aussi.
Était très très bien, mais c'est. Voilà,
c'est une série.
Alors là, c'était réédité le premier. Donc si vous voulez jouer à l'Odyssée d'Abe, vous n'avez pas
vu. Oui, voilà. Ça a été réédité pour une quinzaine d'euros.
C'est ça, ça vaut pas très cher. C'est une version remasterisée. Donc c'est juste en fait. C'est le même jeu qu'avant. Il faut pas charger, ils ont pas baissé la difficulté ni rien. Ils ont juste mis des graphismes pour que ça apparaisse sur des écrans plus grands, quoi.
Alors, c'est l'Odyssée d'Hebe New and Tasty, hein, je crois, de mémoire.
Faites-le, quoi.
C'est un jeu avec une histoire magnifique, très écologiste pour l'époque, et c'était très rare.
Très, très bizarre, très poétique, très
étrange, très violent, aussi dans son.
Beaucoup d'humour. Donc, ça fait partie de ces sagas un petit peu délaissées du grand public, mais qui méritent beaucoup mieux, quoi.
Exactement. Et on va. Est-ce qu'on fait une pause ou est-ce qu'on passe directement au quiz qui fera l'équivalent d'une pause, monsieur Guillaume, qu'en penses-tu?
Oui, si vous voulez, ouais.
Un petit peu de musique, on va mettre une musique de Crash.
Une toute petite, quelques instants d'une musique de Crash, ensuite voilà. On mettra le jingle du quiz.
D'accord, ça marche, à tout de suite.
À tout de suite.
Voilà, on vient de s'écouter du coup une petite musique pour faire une transition en fait. Donc c'était, comme vous l'avez reconnu je pense, Crash Bandicoot, premier du nom, le thème principal.
Le thème principal, voilà. Tout simplement. Et on va passer au quiz. J'ai un petit jingle de quiz avant la musique de fond. Voilà, parce que j'ai... Superbe, magnifique.
Ouais.
Et la musique de fond, c'est parti.
Ouais, c'est parti.
Et on va lancer le quiz. Alors, comme je le rappelle, le quiz a été fait par une personne extérieure à l'équipe, pour une fois, hein, ce qui me permet de participer, et ça, c'est bien.
Ouais.
Alors, je vais vous lire les règles, puisque tout a été fait sous un magnifique PowerPoint devant moi.
Oui, qui est vraiment
vous pouvez
fait,
le voir, là. Donc, le quiz est présenté sous format PowerPoint, afin que tous les animateurs puissent participer, merci à moi. Il a été créé par une personne tierce de l'équipe. Le premier slide comprend la question et le nombre de points attitrés, et le second, donc, affichera la réponse. Donc, voilà, il y aura le nombre de points, la question, et après, on aura la réponse. Les points iront de 1 à 3 selon la difficulté. Il y a 15 questions, une dernière question, surprise.
D'accord. Quelqu'un a de quoi noter?
Vas-y, je vais noter les points, moi.
Ok, alors on va faire ça au quoi? Au plus rapide?
Oui, bah on dit les prénoms comme d'habitude.
On dit les prénoms.
Voilà.
Alors, en 1995, en plus du slogan « On vous prévient, vous voilà prévenu », quelle autre campagne a été lancée? Pour le lancement de la PlayStation.
Wow.
Julien, je sais pas, je vais dire le comité anti-PlayStation. Mais le problème, c'est que je n'ai pas la réponse. On va tous dire une réponse.
J'étais trop jeune, moi j'avais un an.
Moi, je dirais le monde de PlayStation, là, bizarre, avec les animaux.
D'accord. Une idée ?
Franchement, j'ai rien.
Tu sèches pour celle-là ? Alors, la réponse était pour un point. Le comité anti-PlayStation, le CAP.
D'accord.
On va tous donner une réponse chacun, ce sera mieux. Question 2. Combien de collecteurs sont sortis en 1994 sur la PlayStation ? On va dire une estimation, celui qui sera le plus proche.
Le juste prix.
Le juste prix, allez. Je vais dire une cinquantaine pour moi.
De collector.
De collector, ouais. Sur l'année 94.
10.
10, très bien. Guillaume.
11.
Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup en plus. 11. Et la réponse était 2.
Ah, c'est moi le plus
uniquement
près.
Uniquement 2. Un point pour toi, Ferdi. Question numéro 3. Combien de jeux sont disponibles au lancement de la PlayStation au Japon en décembre 1994? Une quinzaine. Allez, je dirais une quinzaine pour moi.
12.
12, très bien.
18.
18. 8.
Putain,
okay. Ouais, c'est encore moi.
C'est encore toi, donc un point de plus pour toi. 8 jeux, hein, quand même.
Que 8 jeux, ça fait faible.
C'est pas beaucoup.
Aujourd'hui, avec tous les gros line-up, à chaque fois qu'on a fait. Enfin, les line-up, c'est ouf.
En quelle année est sorti Metal Jacket ? Mais quel est ce jeu ?
Waouh.
Waouh ! Eh ben, allez, 95 pour moi.
96.
96.
99.
99. 95. Septembre 95.
Bien joué.
C'est pour moi. Un point.
J'avais qu'un nom.
Question numéro 5. Qui sont l'éditeur et le développeur de Dragon Ball Final Boot ?
Waouh.
Oh, ce
Infogrames.
C'est Bandai, déjà.
Bandai, ouais. J'aurais dit Bandai aussi.
C'est sûr, certain, c'est Bandai. Mais alors,
Bandai et je sais plus pour l'éditeur.
Je tente le pif du Infogrames.
Je sais pas, je dirais IE, allez, pour rigoler.
Moi, je dirais THQ, parce qu'on les a oubliés.
Ouais, bah ouais.
Attention, l'éditeur est Bandai, le développeur est Toz.
Aucune idée.
Donc ça nous fait un demi-point chacun, mon cher Ferdi.
Bah, Bandai, c'était logique.
C'était logique, ouais, ils ont toujours eu la licence.
Question numéro 6, pour 2 points, quel genre de jeu est Princess Maker Yumemiru Yosei?
Moi, je vais dire ping-pong.
Ping-pong, d'accord. Ouais. Je dirais un shoot. Un shoot. Ou un visual novel, j'hésite. On va dire un shoot. Princess Maker
Un point and click. Allez.
Point and click. C'est un RPG, on a tous...
RPG de ping-pong, non?
Bon, et bah très bien. Question numéro 7. Que contenait le collecteur US de The Raiden Project ? The Raiden Project qui est un magnifique shoot.
Moi j'ai un flipper.
Un flipper ?
Ouais.
Une arme à feu.
Je dirais une petite maquette, moi, d'une petite réplique. Des stickers. D'accord. Tout simplement.
Tout simplement. On était parti.
Et bah on se fait laminer. Ouais, c'est un quiz très dur. Hein.
Ouais, mais c'est bien, c'est bien. C'est pratique. Hein.
Question numéro 8, finissez le slogan de l'affiche de Battle Arena Toshiden 2.
Ah.
Vous allez découvrir ce que signifie réellement 3D. Alors moi je sais, mais je vous laisse répondre. Ce que signifie réellement 3D. Donc il y avait les 3D et il fallait dire ce que...
Il y a Death... Attends, c'était quoi ? C'était démembrement, des trucs comme ça, je sais plus.
Ok.
Battle Arena, je connais même pas le jeu, donc je sais pas.
C'est un jeu de combat et...
Death...
Que disent les 3D ? Je sais plus, il y a décimation, des moments.
Alors, je dirais que c'est dead.
Ah, c'était ça,
je crois que c'était ça.
C'est juste dead.
Dead, effectivement, ça me fait 2 points.
C'est vrai, ouais. Je vois la boîte maintenant.
Ouais. Question numéro 9. En quel mois et quelle année Megaman X3 est-il sorti ? On va commencer par l'année.
L'année.
94 pour moi. Allez.
X3 ?
X3.
96.
97.
97. On va se contenter de l'année. Hein.
Ouais.
J'avais dit quoi, moi, 95 ?
94.
En 97.
Ouais. Bien joué.
La japonaise était en 96.
En 96, avril 96.
Parce que ouais, mais regarde, donc j'ai bon aussi.
Oui, tu as bon, justement. Ouais. C'est toi qui a 2 points.
Bah non.
On est 2.
Ah oui, donc il y a écrit que la sortie japonaise était en 96, mais qu'il est sorti en 97. C'est... Donc qui c'est qui a bon ?
Bah les deux.
Non, c'est la version euro, hein. On parle vraiment de la console européenne.
J'ai dit 97 alors.
Et bah 97, non, c'est Jules. On va t'accorder
précisé.
Un point quand même pour le...
Oui, on va dire non, on va quand
même. Un point
même.
Pour la peine. Ouais.
Un point pour
pour la participation.
Question numéro 10, toujours pour 2 points. Que comprend la collector de Casper Combo Pack Région PAL ?
Sérieusement, il y a une collector
pour
ce jeu ?
Oui, il y a une collector. Allez, je sais pas, une... je sais pas moi, des... Un tapis de souris, allez.
Une manette custom.
Ah, c'est pas con. Ah, c'est pas con. C'est pas con. Tu dirais quoi du coup ?
Le truc de custom, mais pour la console.
D'accord. Une manette, effectivement, bien 2 joué. Points pour Guillaume. Ça devait être magnifique avec ta manette Casper.
Ah, ouais, ça devait être badass.
Ça devait être magnifique. Question numéro 11. Quel est le titre japonais de Resident Evil sorti en 1996 ?
Ah, c'est facile.
Biohazard.
Biohazard, ouais.
Attention.
On est tous d'accord.
C'est Biohazard, effectivement. Ouais. 2 points pour tout le monde, c'était cadeau.
Ça, c'était. C'est gentil. Merci.
Question numéro 12. Combien de CD comprend Psychic Detective ? Ouh, ça, c'est un jeu obscur.
3.
Je dirais 4.
Bah, je dirais 3 ou 4 aussi. Bah, je vais mettre 5, allez.
5. 3. 3,
ouais,
bah, ouais. 2 points voilà. Pour toi mon cher Ferdi.
Ça c'est le genre de jeu qui sont partis des, c'est l'espèce de point and click bizarre
japonais.
Je pense,
japonais, ouais. Tout à fait. Question numéro 13, trouve le jeu qui correspond à cette description, donc le plus rapide gagne. Je suis un jeu sorti en mars 1996, développé par VARP et édité par Acclaim Entertainment. Je suis un jeu d'aventure mêlant horreur et film interactif. Vous jouez Laura Harris qui est partie...
D.
Oh putain, j'allais le dire, en plus... Oui, putain,
c'est Laura Harris, c'est D.
Mais oui, j'allais le dire, en plus je l'ai chroniqué, je l'ai,
mais oui.
Je l'adore.
Mais on va te mettre un point quand
allez.
Même. C'était combien de points ça ?
C'était 3 points ça.
Ah, 3 points.
Ah, j'aimais bien.
Mais D, j'en avais parlé en plus
mais
dans
oui.
Une chronique, il est génial ce jeu.
Il est
jeu.
Génial, ouais.
En plus, je me dis, mais ça me dit quelque chose, et là je vois Laura Harris.
Ah, mais c'est Laura Harris, oui. Ah, Laura Harris. Mais déjà, Acclaim, jeu de combat.
Ouais.
Jeu de survie, il y en a pas beaucoup.
Jeu de survie, effectivement. Mon collector comprend un sticker géant, un t-shirt, un jeu de cartes, un tapis de souris et des mini-affiches cartonnées dans mon coffret pâle.
FF8.
Je suis sorti en 97.
Tomb Raider.
Metal Gear ou FF8 ? C'est un des deux.
Tomb Raider.
Moi, j'irais FF8.
D'accord, tu dirais quoi ?
Tomb Raider.
Je dirais Tomb Raider 2, moi, ouais, effectivement. Tomb Raider le premier pour toi ? Le 2 aussi ? Bon, on va dire Tomb Raider.
Ouais, je vais dire Tomb Raider.
Tomb Raider 2.
Non,
ouais.
Bien joué, mec.
Ouais, c'est plus... mais lui,
il y avait quoi, donc, tu disais ?
Alors, il y avait un tapis de souris...
Un tapis de souris ?
Ouais, un jeu de cartes, un t-shirt, un sticker géant et des mini-affiches cartonnées.
Je sais pas pourquoi ils voulaient nous vendre des t-shirts
mais,
tout le
mais
temps.
Pourquoi des tapis de souris ? Enfin, tu achètes une console ?
Bah oui, je...
Et on t'offre un tapis de souris, c'est facile de t'acheter.
Et il faut savoir, ça, je l'avais lu, c'est un des collecteurs les plus rares de la
ouais,
PlayStation, du coup.
De combien de points ? 3 points chacun ?
3 points, ouais.
T'imagines, c'est comme si t'achetais une PS4 et on t'offrait une Kinect, tu sais.
Question numéro 15. Combien de titres Hitoshi Sakimoto a composé en sur PlayStation de 88 à 2000?
Oh, c'est dur ça.
21.
21 pour toi.
8.
8, je dirais 12. Allez, histoire de... 3. Bloody Roar, Final Fantasy Tactics et Vagrant Story.
C'est tout?
Ouais.
Putain, je voyais plus sur plus
et
de
bah,
trucs.
C'est Guillaume qui est le plus proche.
Bah non, moi j'ai mis 21.
T'as mis 21? Et bah c'est toi.
Ouais.
3 points du coup. Et la question spéciale que je découvre en même temps que vous. En quelle année le logo Sony est apparu pour la première fois ?
Lequel ?
Je pense que c'est le prototype, enfin le logo en fait, la première apparition du logo qui a été présenté aux médias,
bah,
je pense.
Il me semble qu'on avait vu commencer à le voir quand il y a eu le projet avec Nintendo.
Probablement, donc ça doit pas dater d'hier, je dirais 91.
Ouais, je dirais
90, moi comme ça.
92.
92.
90, 91, 92.
Waouh, 1955.
Sérieux,
le logo
c'est si
ah, c'est le logo Sony.
Ouais, mais le logo, il est... Ah, putain.
Ah, oui. C'est pas le logo PlayStation, c'est le logo
ouais.
Sony,
ouais.
C'est vrai.
55.
Ouais, bon, je pense que ça vaut des points pour personne. Parce
oui, voilà, c'était trop. On était trop...
De...
À 50 ans près,
ouais,
la question,
était,
elle est plus...
un petit peu loin.
Elle est plus vague.
Alors, qui a gagné ?
C'est moi avec 14,5.
Ok.
Deuxième, c'est toi avec 11,5.
Ok.
Et Guillaume avec 8.
Et bah, 8 points,
et bah c'est déjà bien, et Tom avec 0 points.
C'est ça.
C'est Tom
voilà.
Qui a perdu.
C'est Tom qui a perdu.
C'est
dommage.
Ça.
Et bah on va reprendre du coup les hostilités avec le genre qui s'y est particulièrement
ah,
affaire, le genre de la baston.
C'est ça,
le
la
jeu
baston.
Combat, on te le laisse.
Alors,
tu as le micro pendant, allez, on va dire 4 minutes
c'est
et tu
gentil.
Nous parles de tout ce que tu veux.
Alors, la PlayStation a été merveilleuse parce qu'elle a amené l'ère d'abord des jeux de combat 3D, donc Battle Arena, Toshinden qui était l'un des premiers, et Tekken. Qui
d'accord.
Était le premier Tekken, adaptation d'arcade. En fait, elle était forte cette conscience parce qu'elle pouvait adapter des jeux d'arcade 3D à la perfection en perdant très peu de choses. Donc, on a eu les Tekken, on a eu Soul Edge,
ouais.
Comme on a mis tout à l'heure. Donc, le jeu de combat qui a inspiré les Soul Calibur, donc le grand jeu de combat 2D, 3D avec les épées. Les Tekken qui étaient le jeu de combat à portée de tous. Donc, tout le monde a joué à Tekken 1, Tekken 2 et surtout celui qui s'est plus vendu, Tekken 3.
Alors, une petite précision, voilà. À l'époque, être près de l'arcade, c'était quelque chose d'incroyable. Hein.
C'était exceptionnel.
À l'époque, l'arcade, c'était ce qu'il y avait, ce qui se faisait de mieux.
C'est ça.
Et plus tu t'en approchais, plus ta console était considérée
la seule
comme
console
incroyable.
Qui faisait ça, c'était la Neo Geo, était la console à 1500 euros, le
avec,
jeu.
Avec des jeux à 500 euros.
Voilà, voilà, 500 francs, c'était 1500 francs le jeu, c'était exceptionnel.
C'est quand même dingue.
Voilà. Et donc, la PlayStation a apporté ça. Et la PlayStation, donc les jeux 3D de combat, donc Tekken 3 qu'on a tous joué, pratiquement, tout, qui est un jeu qui... Il y a une PlayStation qui traîne dans un coin, généralement il y a un Tekken qui est à côté et c'est celui-là.
Ouais.
Parce qu'il est simple d'accès, c'était facile de jouer, c'était pourtant très profond, avec un casting de fou. On se rappelle, pour ceux qui connaissaient à l'époque, il y avait Gon le petit dinosaure, tiré d'un manga. Mmh. C'est aussi un des jeux
ah,
qui
oui,
a invité...
Je m'en souviens.
C'était aussi un des premiers jeux très connus de baston qui a invité un personnage tiers. Un personnage tiré d'une autre licence dans son jeu.
Je me demandais ce qu'il foutait là à l'époque d'ailleurs.
On a eu des jeux Dragon Ball, donc on a eu Dragon Ball Ultimate Battle 22, qui était pas terrible, mais qui est dans tous nos cœurs et excellent.
Ouais.
Alors que le jeu est finalement c'était assez décevant.
C'était une merde, hein, on peut le dire.
Pas une merde. Une vraie merde, c'est Dragon Ball Final Boot.
Voilà. C'est vrai.
Là, si.
C'est vrai.
Là, c'était vraiment pourri. Et il y a eu un troisième jeu DBZ de combat, c'est Dragon Ball Legend, qui n'est jamais sorti chez nous,
ouais.
Qui est sorti qu'en Europe, que sur Saturn, et qui est exceptionnel, qui est le premier jeu qui a inspiré les Tenkaichi. Donc le jeu 3D avec une vue libre, on voyait des personnages de loin. Alors les personnages étaient, c'était des anneaux de pixels, faut quand même le dire, mais en fait le système pouvait aller en l'air, en bas, et sur les côtés en fait on était totalement libre.
C'était,
et c'était
3
contre 3.
D'accord.
Donc c'était exceptionnel, enfin sur le papier c'était divin, et ça faisait toute la saga jusqu'à bout, des Saiyans jusqu'à bout, donc c'était le premier jeu qui permettait aussi de jouer tout le commando Ginyu, des trucs comme ça.
D'accord.
Donc, je tiens à préciser, Dragon Ball Legend pour les ceux qui écouteraient. Et après, c'est la partie qui me touche le plus, c'était une console qui était capable d'adapter les jeux 2D de combat. Mmh. Et donc, on a eu Street Fighter Alpha, qui était la saga qui a été créée à partir de ce moment-là, donc Street Fighter Alpha 1, 2, 3. Donc, le Street Fighter Alpha 3, qui est encore considéré comme un des meilleurs jeux de combat 2D. Et on a eu aussi les premiers jeux tirés de licence de Marvel que Capcom avait, donc X-Men. X-Men versus Street Fighter, Marvel versus Street Fighter, Marvel Super Hero, Marvel vs Capcom. Donc, on a eu le troisième il n'y a pas longtemps, quoi. Et c'était des très, très grands jeux 2D. Donc, c'était de la 2D très, très belle, très, très fluide, très, très lisse. Et assez exceptionnel, ils ont très très bien vieilli.
D'accord. Voilà.
Et le dernier petit point pour les jeux de combat, c'était Guilty Gear. Le premier épisode de la saga, qui est maintenant un peu culte de jeux de combat, a été créé sur la. Enfin, a été adapté sur la PlayStation 1. Voilà.
D'accord, ok.
Donc, voilà, c'était.
Et on va passer. On va passer à un genre que finalement qu'on ne connaît que très peu, je crois que c'est Guillaume le plus calé de nous tous. C'est le genre du sport et de la conduite en général.
Ouais.
Qu'est-ce que tu retiens dans les
alors,
jeux de sport
déjà, on va passer à la conduite. Gran Turismo 2, qui est pour moi un des meilleurs Gran Turismo et jeu de simulation de voiture. Parce que c'était un jeu où il fallait en fait jouer beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'au début, vous ne pouviez pas faire ce que vous voulez. Il fallait passer les permis pour pouvoir piloter un certain type de véhicule. Donc il y avait le permis A, B, Pro A, Pro B, Pro C, ou Pro 1, 2, 3, je sais plus. Enfin, il y avait plein de permis. Après, fallait que tu fasses plein de courses pour, en fait, du farm pour t'acheter une petite voiture, pour après l'améliorer, le moteur, etc., la préparer pour une course. T'avais des vraies courses de 24 heures, des courses de plusieurs heures. C'était genre,
non,
tu pouvais te faire vraiment des 24 heures
courses chez toi. C'était un des jeux les plus complets de la PlayStation.
C'était assez dingue, bah, il tenait quand même sur deux CD. Hein,
et je crois plus d'une centaine de voitures, hein, c'est
ça.
Oui, pour l'époque, c'était
pour un jeu de course sur deux CD. Je sais pas si on se rend compte du truc.
C'est fou.
Tu te déplaçais, je me rappelle, sur le menu, t'avais tous les différents vendeurs, donc t'avais toutes les grandes marques de voitures. Enfin voilà. Donc le 1 qui était déjà bien, le 2 qui est
l'apothéose. L'apothéose, ce qui a jamais été dépassé pour beaucoup.
Voilà. Après, pour rester sur la course, donc on en a parlé tout à l'heure, Wipeout, qui est un très bon jeu d'arcade.
C'est ça.
Crash Team Racing,
voilà.
Crash Team Racing.
Qui est une adaptation de Crash Bandicoot, voilà.
Mais
qui est le Mario Kart de la PlayStation.
Le Mario Kart est considéré pour beaucoup
comme un des meilleurs jeux de kart que
Mario Kart.
Ouais. Bah, t'as moins ce côté frustrant de quand t'es premier, tu te fais niquer.
Oui, c'est un jeu un peu plus tactique que Mario Kart, effectivement, qui laisse moins place au hasard, et ce qui plaisait, je pense.
C'est une console qui a connu beaucoup de jeux de 3D, donc Colin McRae, Verali, qui était très très cool, les Verali. Destruction Derby, qui est un des jeux de lancement de la console aussi.
Micro Machine aussi.
Voilà.
Micro Machine.
Non, c'est une console qui a eu beaucoup de bons jeux de course. Mais et comme tu disais, arcade, quoi. Des choses qui étaient jouables en borne, etc. Dans les trucs physiques, qui étaient enfin disponibles à la maison.
Et niveau jeu de sport, alors
niveau jeu de sport, c'est là où on a eu l'arrivée vraiment de la licence FIFA, vraiment.
Et puis surtout une licence qui revient tous les ans, ça se faisait peut-être pas encore trop à l'époque.
Donc les plus gros restent quand même FIFA en route vers la Coupe du Monde 98, avec un doublage de Jean-Luc Reichmann quand même.
Je m'en souviens, j'adorais ça. Tu pouvais faire du 60-0 pendant des matchs de 90 minutes, c'était génial.
Avec son concurrent après FIFA, c'était ISS.
D'accord.
Je sais pas si vous vous rappelez d'ISS, mais voilà. Et voilà, après, bah, il y avait tous les jeux à licence, donc NFL, NHL. Il y avait des jeux de rugby, des Jonah Lomu rugby. C'est ouais. pour ça qu'aujourd'hui, ouais. on en retrouve sur les consoles nouvelle génération des Jonah Lomu. Ça vient de la PlayStation 1, voilà.
Voilà, et bah également sur la PS1, il y avait beaucoup de jeux d'arcade, enfin tirés de l'arcade. On a eu l'apparition des premiers vrais pistolets optiques, enfin qui étaient
Time Crisis. Ouais.
Time Crisis notamment, des portages des classiques Saturn, Super NES, enfin plein de choses. C'est une console qui a eu tellement de choses qu'on devrait faire une deuxième émission là-dessus.
C'est et c'est on sûrement, s'en rend compte maintenant.
Et c'est sûrement ce qu'on va faire. Du coup, on va un petit peu écourter ça et on va arriver tout de suite au climax finalement. Mm. Pour vous, quel est votre jeu préféré de la PS1? Je vais commencer par toi, Guillaume, parce que je sais que c'est un peu plus long.
Alors, mon jeu préféré de la PS1, alors soit, attention, soit Rayman.
D'accord.
Soit le jeu Bust a Move 4.
Jeu de puzzle.
Ils étaient trop mignons de toute façon, les personnages. Mais c'était un bon jeu quand même.
Puzzle Bubble, tu veux dire?
Ouais. Non,
ça s'appelait Bust a Move.
Bust a Move à l'époque, d'accord, ok.
Voilà. Grand Turismo 2 que j'ai passé quand même pas mal de temps, même si bon maintenant les jeux de voiture je m'en fous.
D'accord.
J'avais bien aimé aussi le jeu Star Wars Jedi Power Battles où en fait tu revivais les éléments du premier épisode, mais tu avais le choix entre plusieurs personnages dont le maître Yondu que personne connaît.
D'accord.
Voilà, et sinon le jeu Spider-Man 1.
Ah, Spider-Man 1, alors pour tous les fans de Marvel, foncez encore dessus, il est encore très bon.
Il est encore très bon, il est facile à trouver, il est pas cher.
Les doublages sont très rigolos, franchement.
Les stages sont rigolos, il y a des voix françaises exceptionnelles, les doublages sont exceptionnels, et il y a tous les méchants, la jouabilité a pas vieilli.
Et en plus, tu peux avoir des costumes différents.
Et tous les costumes de comics, enfin, c'est vraiment fan de comics, foncez dedans, quoi.
Et le 2 aussi, à ce qui paraît bien, et le 2, le méchant, c'est Electro.
Oui, non, les deux sont bien, les deux
sont très sympas. Ferdi, ton jeu préféré?
Alors moi je vais pas être original, c'est le jeu coup de cœur Final Fantasy VII.
D'accord.
Pour tout,
parce
la musique.
Parce que pour toi invaincu quoi. Hein,
c'est invaincu parce que même si FF8 et FF9 sont sortis avec des choses supplémentaires, celui-là avait un truc en plus. Ça veut dire qu'en plus il marque la génération, c'est pour moi le jeu post-punk.
Il avait une magie, hein, c'est
ouais,
ça. Hein.
Il avait une magie qui n'a pas été retrouvée après. Voilà, donc Final Fantasy VII pour la RPG et en jeu de baston Guilty Gear pour parce que le jeu était parfait et ça a amené la saga maintenant.
Alors pour moi ce serait Crash Bandicoot 2 du coup, c'est un jeu qui m'a marqué, c'est un jeu que j'aime profondément, que j'aime pour son doublage, que j'aime pour ses niveaux, que j'aime parce qu'il te faisait voyager en fait, c'était mon Mario 64 à moi de l'époque, et j'ai toujours été un gros amateur de jeux de plateforme, et ça j'avoue que c'est quelque chose qui m'a marqué, parce que ce jeu est bien, ce jeu c'est la vie, voilà, tout simplement. Et sur le tard, j'ai découvert FF7 tard. Et effectivement, je te rejoins, pour moi c'est un RPG exceptionnel qui n'aura pas d'équivalent jamais dans l'histoire, puisque de toute façon, ton premier RPG c'est toujours le meilleur.
C'est ça. C'est, oui, grosso modo, c'est ça. Puis c'était nouveau, quoi. C'était enfin un RPG qui arrivait chez nous, quoi.
Alors, on va juste finir par votre pire jeu PS1 de l'univers. Alors, on va commencer par... Allez, Guillaume, à toi.
Alors, moi, c'était un jeu qu'on m'a offert qui s'appelait Hugo.
Tu l'as retrouvé, la personne qui te l'a offert, parce que...
Ouais, je le connais. je ne donnerai pas de nom, mais en fait...
Dénonce-toi.
Bah, en fait, je le comprends, parce que quand tu... En fait, il valait 5€ au champ à l'époque.
Ah bah voilà.
Pour te donner quand même un ordre d'idée, tu pouvais avoir Pokémon version rouge ou version bleue dans mon Auchan à 3€ à l'époque.
D'accord.
Mais il a préféré me donner pour 2€ de plus le jeu Hugo.
Le jeu ultime, ouais.
Voilà, donc voilà, c'était un jeu affreux de merde, de plateforme.
Un bouton pourri.
D'accord. Voilà. Ferdi.
Moi, c'est Sabrina la petite sorcière.
Waouh.
Parce que c'est tiré de la série télé.
C'est bien cette série télé.
Et la série est bien, et le jeu est. Alors, il y a des voix doublées, des choses. C'est exceptionnel. Et le jeu te rend fou parce que le jeu est buggé et incompréhensible dans son histoire et son scénario et ses quêtes. En fait, t'es lâché dans des niveaux 3D vus du dessus.
D'accord.
C'est nul à chier.
Ok. Alors, moi, je vais vous raconter une mini histoire parce que je sais qu'on a plus beaucoup de temps. Je vais vous parler de The Mission. Alors, The Mission, c'est quoi? Écoutez bien. The Mission, c'est un jeu tiré d'une pub. Inspiré d'un jeu vidéo lui-même. Donc, c'est un jeu qui reprend pour base une pub inspirée d'un jeu vidéo. Et est-ce que voilà, ça tourne bien, est-ce que vous avez bien compris?
Voilà, c'est rien que pour ça, c'est...
C'est assez compliqué. Et le jeu a cette particularité de durer 20 minutes.
Un jeu PS1.
20 minutes, ouais. Et était vendu, bien sûr, parce qu'il y avait des stars de foot et que c'était pas loin de la Coupe du Monde. Donc, effectivement, ça s'est bien vendu. Mais c'était une daube sans nom. Et également, un autre jeu que je voulais parler, Kurushi. Un jeu que je vous invite à découvrir sur internet, je vous mettrai une vidéo avec l'émission, qui me met une angoisse, hein. C'est un jeu qui me fait angoisser à chaque fois. Je vous montrerai une vidéo et vous comprendrez très vite pourquoi ça a été quelque chose d'horrible pour moi, finalement, ce Kurushi. Est-ce que vous avez un petit mot pour finir?
Non, bah on se rend compte que la PlayStation est une console qui a marqué son temps, marqué son époque et qui la marque encore. Parce que bah, finalement, une PS2, une PS3, une PS4, ça, c'est bien qu'il y a l'origine qui a marché. Quoi.
Voilà. Guillaume, un petit mot pour finir?
Bah non, ouais, moi, pour moi c'était une des consoles les plus complètes à l'époque.
Il manquait juste un Mister NES, c'est ça.
Ouais, bon non, ça aurait pas marché en 3D. Mais non, non.
Bubsy, Mister NES 3D avec comme Bubsy, tu sais.
Oh. Ah, le... Il est bien non, fait de rester.
Franchement, ouais, moi j'y ai passé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. C'est la console qui m'a appris à savoir jouer en fait. Donc,
D'accord, donc elle le mérite. Ouais,
c'est... Et c'est une console qui a le format CD qui est incassable.
C'est
elle
ça.
Marche encore toutes. Mm. Toutes les PS1 marchent.
Ah, c'est les CD qui marchent plus en fait.
Ouais. Oui, voilà. Mais c'est rare, c'est une console avec beaucoup d'électronique qui marche encore. Mm.
Voilà. Et ben, du coup, ça conclut notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis.
Merci à tous.
On vous dit rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle émission dont on a déjà le thème, qui sera les développements chaotiques de jeux.
C'est ça.
Ça va être une émission spéciale et très intéressante parce que c'est un thème qui n'est pas beaucoup abordé dans le jeu vidéo.
C'est ça.
Donc, merci de nous avoir écoutés.
Merci
à tous.
Merci à tous.
On vous fait plein de bisous. J'espère que ça vous a plu.
À bientôt sur Radio
Ciao.
Campus.
Ciao.